Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
On reçoit aujourd'hui le plus français des écrivains algériens.
Albert Camus.
Non, il n'était pas dispo, Albert Camus.
Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il est algérien, mais il est presque plus connu en France.
Oh, c'est Zizou, ouais. Il est français, Zidane. Enfin, quand il a mis le coup de tête à Materazzi, il était plus qu'habile.
C'est Boualem Sansal. C'est l'auteur de 2084, notamment. Oui. Il est beaucoup lu ici. Pourtant, il n'a jamais voulu quitter l'Algérie.
Un immigré idéal, quoi.
Bon, hein, mais...
Il est libre. Dans son livre, Le village de l'Allemand, il fait le lien entre le nazisme et l'islamisme.
Il cherche.
On a dit de lui qu'il était un mauvais patriote, un mauvais musulman, un communiste.
Oh, l'insulte, communiste, paf.
On lui a aussi reproché d'être du parti de la France.
Attends, un Algérien qui est du côté de la France sans jamais s'y installer, mais Nicolas Dupont-Aignan, il va en avoir les larmes aux yeux.
Hein, oui, lui considère juste qu'il n'a pas à avoir peur de ses détracteurs.
Et il a raison, ce gars-là. Mais oui, mais attends, mais c'est génial comme stratégie. D'ailleurs, j'avais pensé que vous pourriez faire pareil, en fait.
C'est-à-dire
Vous aussi, vous aimez la France, mais vous n'êtes pas d'ici, en fait.
Et donc
Alors, le mieux, ce serait que vous retourniez en Belgique, vous faites vos trucs, puis de temps en temps, vous passez faire de la promo.
Ah ouais, qui s'occupe de l'émission
Alors, là, j'avais pensé à moi.
Alors,
ça marche pas de rester chez soi pour être aimé ailleurs. Ah. Je sais, j'ai essayé avec des filles.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up émission qui dépose les actifs de l'actualité dans le portefeuille de la blague. Et voici les trois informations qui vont être valorisées à hauteur de 3%, que l'on appelle désormais communément le taux Benoît Hamon. Un tiers des jeunes Européens réclament une main de fer pour diriger leur pays, voire un militaire, parce qu'un militaire, on obéit, figurez-vous. Comment une partie de la jeunesse en vient-elle à réclamer de l'autorité ?
Vive française.
Les monstres de la distribution américaine, Amazon et Walmart, se livrent à une concurrence féroce qui passe aujourd'hui par la course à la livraison. Ils mettent tous les moyens pour nous livrer en un seul jour. On souhaite donc bonne chance aux coursiers.
Ça va ? On se prend pour Schumacher ?
Le livre a une odeur, celle du papier, vieux ou neuf, celle des bibliothèques et des manuscrits. Cette odeur fait partie de la mémoire collective, c'est prouvé scientifiquement. Alors pourquoi ne pas la sanctuariser en patrimoine immatériel de l'humanité ? Allez, au hasard, on ouvre la version poche des Fleurs du Mal.
You smell ? It smells like a flower.
Lui, il smell rien du tout, mais alors rien de rien, puisqu'il n'est pas doué d'odorat.
C'est vrai.
Bien qu'il flaire les brèves de très très loin, c'est Alexis Zorek.
Je peux vous dire.
Il n'est pas doué de grand chose non plus.
Je vous remercie, je vais vous présenter quand même.
Voilà,
belle équipe, belle équipe.
Ouais,
17h20. Celui qui peut être très violent par son humour, et c'est pour ça qu'il fait partie de ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est Pablo Mira, bonjour.
Salut Alex, bonjour Charline. Grisouille. Aujourd'hui, je vais vous parler misogynie, homophobie, xénophobie, grossophobie. Bref, j'ai décidé de vous parler de mon oncle à tout à l'heure.
À 17h30, la musique avait déjà pris un petit coup quand il s'est attaqué au rock'n'roll. J'ai très peur puisque la thématique de sa chronique, c'est le rap. Oui. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Je vais vous parler d'une appli qui permet de réviser ses cours avec du rap, un peu comme un maître d'école, mais qui serait Maître Gims.
Bah, c'est une autre forme de rap, quoi, on va dire.
C'est l'autre forme, mais ça, voilà, c'est de l'art contemporain, on va dire.
Eh bien, on est en attente. Et à 17h40, dans une de ses chansons, Serge Lama disait « Dites-moi au moins que vous m'aimez, Clara ». Eh bien, cette chanson n'a pas marché, comme notre histoire. Clara Dupont-Moineau, bonjour.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous.
Vous m'aviez manqué, ça faisait longtemps. De quoi on va parler ?
On va parler du livre de notre invité qui parle de train.
Ouais. Et voici celui qui nous accompagne dans l'Open Space aujourd'hui. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Boualem Sansal.
Mais oui,
ouais. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Vous voilà à Paris, Boualem Sansal.
Voilà.
Bienvenue dans Par Jupiter. Et vous êtes l'invité d'honneur du festival du premier roman qui se tient à Chambéry à partir de mercredi.
Ouais.
Et cela jusqu'au 26 mai sur le thème de l'engagement. Première question, qu'est-ce qu'un premier roman a de plus que ceux qui suivent ? Qu'est-ce qu'il a que les autres derrière n'auront peut-être plus ?
Ah oui, mais toute histoire commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas. Ben, il faut commencer par un premier roman pour pouvoir en écrire un deuxième. On ne saurait pas écrire un deuxième avant le premier.
Donc, il y a un charme. On parle souvent de la fraîcheur d'un premier roman.
Il faut passer par là. Vous... Non, moi, j'en suis maintenant au 10e, donc je suis à l'aise.
Oui, bien sûr.
Bon, ça va.
Vous avez l'impression que la création de ce premier avait été plus complexe que les 9 suivants, ou plus évidente?
En fait, on est l'auteur d'un seul roman. C'est toujours c'est le premier, quoi. Le reste, c'est on se redit. Bon, voilà. Le reste, c'est parce qu'on est sur des rails. C'est parce qu'on a écrit un premier, donc on se sent obligé d'écrire un deuxième.
Le premier roman, le
c'est
serment.
C'est pareil que les chroniques de Pablo. Hein.
Ouais, la 115e et la première, c'est la même.
D'ailleurs, le premier roman, le serment des barbares, vous avez été lauréat de ce même festival, festival du premier roman, lors de la 13e édition. Ouais. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce que cela vous avait apporté?
C'est un festival super important, c'est vraiment c'est très, très bien construit. Il y a un monde fou, les livres sont lus par des comités de lecture, il y en a 30 000, je crois, dans tous les villages, les trucs, les machins, des gens se réunissent, ils lisent des centaines de bouquins, ils en débattent et choisissent les 13 ou 15 meilleurs et qui sont invités. Et puis voilà, là, on est livré à la population.
Le lauréat est choisi donc par les lecteurs plutôt que par un jury de professionnels.
Oui, c'est des votes. Hein.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
C'est démocratique, hein, les jeunes croient à la démocratie. Le comité de lecture, c'est que... Bon, il n'y a pas de jeunes, c'est tous des vieux. Les comités de lecture en France, c'est curieux.
Ah. Ouais, pourtant, il y a beaucoup de jeunes dans les primo-écrivains.
Oui,
donc c'est des vieux qui vont juger des jeunes, c'est un peu ça le résumé du... Vous le vendez très bien, Boilem. Vous le dites,
moi je suis resté jeune, j'ai l'intention de rester jeune jusqu'à la fin. C'est les vieux qui vivent longtemps, et donc ça me plaît pas, j'ai envie de mourir jeune. Bah
oui,
quoi.
Jeune c'est dans la tête,
de toute façon. Dans la tête.
Bah, évidemment. Festival de premier roman, donc de jeunes auteurs, en tout cas beaucoup de primo-auteurs, ça met une ambiance particulière, il y a une effervescence qu'il n'y a pas ailleurs, où on pourrait peut-être plus blasé dans d'autres salons avec des professionnels plus aguerris.
Mais les vieux sont marrants. Non, mais souvent, vraiment, les jeunes...
Mais vous n'êtes pas vieux, arrêtez avec ça.
Moi, j'ai fait ce festival quand j'ai publié mon premier roman.
C'est
et
vrai
Oui, ah, et je me souviens de ce que... C'est par rapport à la question de Charline. Moi, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais oui, en 1931, ça, on a compris...
Votre premier roman, c'était Juliette de Mie.
C'était au Valuciole.
Ah, d'accord. Ouais.
Non, mais oui, laissez tomber, Boilem, vous allez y avoir droit.
Rappelez-nous le titre de votre premier roman, Clara.
Ça s'appelait Éova Luciole. Et moi, je me souviens que on voyait dans les gens qui étaient avec moi, ça préfigurait un peu les futures personnalités en cas de succès. Il y a ceux qui se la pétaient complètement.
Ah, mais c'est vrai que...
Ouais, il y a ceux qui restaient humbles. Il y a ceux qui étaient là, qui comprenaient pas trop. C'était un peu miraculeux. Il y a ceux qui trouvaient ça complètement normal. C'est marrant, hein. Et après, on voit, en fait, au fur et à mesure des années, si on avait visé juste ou pas dans les personnalités qui se dessinaient. Ça, vous avez fait ça aussi?
Ah oui, absolument. D'abord, on nous explique que quand on arrive, quand on est sélectionné, que c'est le festival du premier roman qui fait la carrière de voilà. Donc on se dit oh là là, c'est important là, faut réussir le passage et donc on fait des efforts pour parler bien, pour paraître intelligent. Mais c'est vrai, ça classe. Hein. Moi, j'ai fait partie donc d'une promo qui aujourd'hui, ils occupent le devant de la scène littéraire, Philippe Claudel et Éric Deloux. Luca, etc. Donc vraiment.
Guillaume Musso, enfin tout.
ils étaient présents à ce festival, donc il se tient à Chambéry à partir de mercredi.
Ouais, c'est vrai.
Ce festival, il est mis sous le thème de l'engagement. Donc évidemment, on a pensé à vous, Boilem Sansal, j'imagine. La littérature, c'est le thème aussi de littérature force de changement. Vous sentez que vous incarnez ça?
Non, ça c'est des réputations après coup. Non. Franchement, je pense pas que la littérature fasse changer les choses. Encore moins les écrivains, parce qu'on peut...
C'est terrible,
souvent les livres
dites.
Sont plus connus que l'écrivain qui les. Voilà. Donc non, j'y crois pas. C'est après
ça va aller vite la première table ronde alors.
Merci.
Jeudi 23 mai, on a déjà la réponse, donc c'est peut-être pas la peine.
On est fabriqué par l'opinion. Voilà, c'est l'opinion qui. C'est vrai, maintenant je commence à me sentir un écrivain engagé. Mais pendant les 15 dernières années, j'écris, c'est tout. Mais on est fabriqué, on devient. Voilà, on nous invite parce qu'on suppose que vous êtes engagé, mais je ne le suis pas. On a fait de moi un écrivain engagé.
Engagé, oui. Voilà. Eh bien, il y a par exemple une rencontre jeudi à 15h45 sur le thème « On écrit comme on enfile une tenue de combat ». Ce sera suivi d'une dédicace. Il y aura aussi une rencontre, notamment avec le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu. Clara Dupont-Monod nous en parle tout à l'heure. Il est 17h17. Bon. Ouais.
Ah bah,
vous savez qu'il est jamais à l'heure le journal.
Ouais,
alors en attendant, The Animals avec C.C. Ryder et Boualem Sansal est avec nous jusqu'à 18h les amis sur Par Jupiter. Terre par Jupiter. Boualem Sansal nous accompagne. Il est l'invité d'honneur du festival du premier roman qui s'ouvre mercredi à Chambéry où il est 17h20 comme à Paris. Et pour entourer Boualem Sansal,
notamment Clara Dupont-Monod qui parlera de son dernier ouvrage, notre ami Pablo Mira qui est content d'être là. Est-ce que c'est la réciproque, Guillaume Meurice? Je ne sais pas. Nous verrons cela tout à l'heure.
Boualem, c'est le moment de l'information.
Et oui.
Tête de liste parce que j'estime qu'on a envoyé trop souvent des tocards à Strasbourg. Le journal de presque 17h17. Je souhaite qu'on envoie du sérieux et qu'on règle les problèmes.
Et voilà, on commence par les titres.
Affaire Vincent Lambert, c'est aujourd'hui qu'a commencé l'arrêt des soins alors que la famille continue de se déchirer.
Eh oui, on n'a pas vu une famille aussi divisée autour d'un mort depuis celle de Johnny Hallyday.
Le dernier épisode de la série Game of Thrones a été diffusé cette nuit.
Voilà, pour les fans, c'est dur mais pas d'inquiétude si vous aimez les séries addictives pleines de rebondissements. Faites comme moi, suivez la deuxième semaine du procès Balkany.
Ou les brèves.
Eh oui, évidemment, on est bien loin du dernier épisode des brèves, je peux vous dire.
C'est dommage, parce que ça s'éternise un peu.
Et on commence par les européennes, oui. Évidemment.
Marine Le Pen assure que Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump, n'a aucun rôle dans la campagne du Rassemblement National.
Eh ben voilà, je crois qu'on tient une nouvelle affaire d'emploi fictif au Rassemblement National.
Extrême droite toujours, ouais. Florian Philippot estime que ses députés seront les seuls à proposer la sortie de l'Union Européenne.
Et avant de proposer de sortir de l'Union Européenne, il faudrait qu'ils arrivent à avoir assez de voix pour rentrer au Parlement Européen. Et ça, c'est déjà pas gagné.
Place publique, cette fois, Najat Vallaud-Belkacem a apporté son soutien à Raphaël Glucksmann. Il y avait déjà Hollande, Cazeneuve, Aubry et maintenant Vallaud-Belkacem. Voilà,
encore un effort et Raphaël Glucksmann aura réussi à réunir tous les gens de gauche à cause desquels les gens de gauche ne veulent plus voter à gauche.
À droite à présent.
Oui, François-Xavier Bellamy était invité ce matin sur France Inter et il nous parle de l'Europe.
Moi je vois depuis le début de cette campagne partout sur le terrain à quel point, effectivement, l'Europe suscite une défiance qui est aujourd'hui profonde. Et pas seulement l'Europe, d'ailleurs. La politique, et Charline Vanhoenacker le disait sur votre antenne il y a un instant, la démocratie elle-même.
Vous êtes citée par la droite comme référence, vous, la femme de gauche. Vous êtes donc une sorte de Jaurès 2.0.
C'est un philosophe qui cite les grands philosophes belges, ça normal. International, à présent. Donald Trump menace de provoquer la fin officielle de l'Iran si Téhéran veut se battre.
Une déclaration signée Donald Trump, ancien candidat au prix Nobel de la paix.
Aux États-Unis, un milliardaire va payer les dettes de centaines d'étudiants américains.
C'est très très beau, alors qu'en France, si les étudiants veulent recevoir l'aide d'un milliardaire, ils doivent se déguiser en cathédrale. Et c'est pas évident.
Indonésie.
En femme.
Indonésie, à présent, un Français arrêté avec 3 kilos d'ecstasy, d'amphétamine et de kétamine vient d'être condamné à mort.
Et oui, rendez-vous compte, en Indonésie, l'espérance de vie de Pierre Palmade ne dépasserait pas 10 minutes.
Culture, toujours. On a appris hier le décès de Nilda Fernandez qui chantait notamment Madrid, Madrid.
Eh oui, heureusement, il nous reste Manuel Valls qui chante Barcelone, Barcelone, mais avec beaucoup moins de succès.
Alain Delon a reçu enfin hier sa palme d'or d'honneur à Cannes.
Et il s'est fendu d'un petit discours tout en retenue.
Ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume. Mais de mon vivant.
C'est un peu un hommage posthume de son vivant. Qu'est-ce que ça va être le jour où on va donner un prix à Abdelaziz Bouteflika?
Sport à présent avec le Mercato. Oui. Steve Mandanda et Adil Rami ne veulent pas quitter Marseille cet
été. Deux ont pourtant fait une saison catastrophique. Marseille n'est pas qualifiée en Coupe d'Europe. Ils ont été cambriolés et insultés par leurs supporters, mais ils veulent rester.
Et à ce niveau-là, c'est de l'acharnement thérapeutique.
Et même Vincent Lambert, on l'a laissé partir. Oui.
Et la dernière.
Et la dernière, les brèves. Cornimont dans les Vosges, il menace les clients, brise la vitre d'un kebab et se vide de son sang. Elle va pas bien cette campagne pour Benoît Hamon, elle va pas bien.
Oui, maintenant bah c'était la première.
C'est mieux que la dernière, c'est un son. C'est un son parce que moi quand je suis des dossiers, j'y vais à fond.
Oui. Bien ça, le
j'ai
problème.
Suivi une télé locale belge parce que je voulais savoir qui était le grand gagnant de ce fameux festival de la Coupe Mulet. Eh ben on l'a et je suis évidemment à nouveau déçu.
Le grand gagnant du plus beau mulet, c'est lui, Michel, et il est venu de Bretagne spécialement pour l'occasion.
Je suis assez ému, ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a autant d'intérêt pour la mule. Il y a plein de gens sympathiques ici, on est bien, on sent bien. Ouais. Mais je me suis dit qu'il y avait bien que les Belges pour organiser ça.
Et voilà, voilà quand même un bel hommage au pays organisateur.
Merci Alex.
Vous aviez une belle possession quand même de mulet, mais ça n'a pas suffi. Hein.
Ça va, oui. C'est bien de retourner le couteau dans la plaie comme ça.
Il est très beau,
vraiment. C'était vraiment nécessaire. Bon, allez. Boualem Sansal est en notre compagnie. Profitons-en. Et parlons de cette étude, qui révèle qu'un tiers des jeunes réclament plus de poigne à la tête de l'État. Il y a 38% des jeunes, des moins de 35 ans, qui veulent un homme fort, quitte à faire du Parlement et des élections, quitte à faire fi du Parlement et des élections. 31% souhaitent que l'armée dirige le pays. C'est le résultat d'une large enquête menée dans 42 pays, dont les 28 membres de l'Union européenne, par la Fondation pour l'innovation politique en France, l'Institut Ipsos et un think tank américain également. Alors, quelle est cette jeunesse qui réclame une main de fer?
Mon programme par Elliot Boulet, waouh. Alors, premièrement, l'égalité pour tous. Pour ça, tu proposes de porter un uniforme et de renvoyer tous les mauvais élèves. Dis donc, mais c'est pas un petit peu sévère, ça? Tu voulais pas que tous les élèves soient égaux?
Tous égaux, mais tous bons.
Ah. Deuxièmement, un esprit sain dans un corps sain. Alors, 10 minutes de gymnastique avant de commencer les cours, des heures de retenue pour les bavards, des pompes pour les insolents, chanter la Marseillaise après chaque récréation. Tiens, Denis, je veux bien que tu dises quelque chose, là.
Ben, par exemple, on ne fait pas faire de pompes à un enfant de 8 ans. Hein,
Donc, c'est qui se présente? Vous ou moi?
un extrait de la série « Fais pas ci, fais pas ça » sur France 2. C'est un article paru hier dans Le Parisien aujourd'hui en France qui explique que les jeunes ne croient plus en la démocratie. Un tiers réclame un homme fort ou une femme à poigne. Il y a quelques étudiantes d'Orléans qui suggèrent une femme jeune mais militaire. Parce qu'on obéit aux militaires. Je me disais, Boualem Sansal, au moment où les jeunes Algériens sont descendus dans la rue pour dégager Bouteflika et tout un système, quand on voit que les jeunes Européens, et certains vont voter dimanche, réclament un homme fort, quelle réflexion ça déclenche chez vous ?
Il faudrait organiser des voyages d'études en Algérie, les envoyer un peu partout comme ça, en Algérie, en Égypte, faire des petits stages, une petite semaine, et puis on verra ce qu'ils diront à le retour.
Ça va les vacciner, vous pensez ?
Oui, ça va les vacciner, voilà. Ouais. Ouais, c'est une réaction d'enfant gâté, là. Hein, voilà.
Mais c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas appris à l'école, ça, alors ? Parce que ils ont moins de 35 ans, donc il y a dedans aussi des étudiants, ils ont fait les humanités, donc ça n'a pas suffi. Il faut éprouver la chose pour être vacciné.
Mais oui, mais comment faire autrement ? Et c'est vrai qu'ils vivent dans des sociétés hyper protégées et que ils sentent que les choses se délitent autour d'eux et ils savent pas à qui s'adresser. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi le pari de la lenteur, le pari du débat. Donc voilà.
Vous pensez qu'il y a un besoin d'immédiateté dans ce désir d'homme fort ?
Je crois. Moi, je me souviens d'une rencontre c'était le deuxième mandat de Chirac. Une rencontre avec des jeunes, et puis ils étaient une quinzaine, et ils commencent à poser des questions. Première question, monsieur le président, nous on pense à notre retraite, etc. Et puis l'autre, oui, et vous ? Moi, je sais pas, je termine mes études dans 5 ans, est-ce que j'aurai du travail à la sécurité sociale ? Chirac s'arrachait les cheveux. Il dit, mais c'est pas possible. Ouais. À votre âge, vous parlez de retraite, vous avez la vie devant vous.
Et vivez. Comment vous l'avez analysé, ça? Alors, comment est-ce que les jeunes pensent déjà à la retraite? On peur de l'avenir.
Parce qu'on a hyper protégé les enfants et vivent dans des cocons.
Et stressés aussi, mais
Il y a une insécurité autour, en fait.
Et puis, ils sentent que la chose se délite et ils sont inquiets. Voilà, ils demandaient à Chirac, candidat, qui était malade, il avait parlé de la rupture, de la fracture sociale. Ouais. Hein. Mmh. Donc il les a mis un peu en condition. Et voilà, à cet âge-là, ils réclamaient des garanties sur leur retraite dans 60 ans.
Et c'est peut-être Chirac qui leur faisait peur avec ses yeux. Et ils se sont confiés à lui, c'est ça qui est assez fou.
Mais ça ne vous inquiète pas, Boualem Sansal, de voir que la jeunesse est peut-être plus conservatrice encore et moins démocrate, en tout cas dans ses aspirations, que les générations d'avant qui se sont précisément battues pour la démocratie et...
Ouais. Absolument.
Et le progrès,
c'est très inquiétant. Les jeunes ont besoin, de se confronter à la vie. Ils ne sont pas confrontés à la vie. Ils sont tellement protégés par leurs parents, par l'école, par leurs trucs. À propos de tout, il y a des instructions. Vous descendez l'escalier, accrochez-vous à la rampe. C'était évident. Ouais. On n'a pas besoin de dire aux gens « accrochez-vous à la... » C'est évident. On les infantilise, on les...
Il y a sans doute d'autres explications, mais en tout cas, c'est la vôtre.
Le réchauffement climatique, peut-être aussi.
C'est les gilets jaunes.
C'est les gilets jaunes.
Boualem Sansal avec nous. À 17h30, il est l'heure donc de passer la parole au plus sensible d'entre nous, celui qui nous a confié qu'à 33 ans, il pleure toujours devant Bambi.
Ouais, ma loulou. C'est toujours un moment difficile quand le chasseur rate le petit fond. Oui. Il passe à ça d'une magnifique grillade, techniquement, c'est terrible.
C'est triste, oui. Mon petit ange trapu, aujourd'hui, vous nous dites halte à la dictature de la victimisation.
Ouais, ça c'est clair, il y en a marre de ces gens qui se disent victimes de sexisme, de racisme, d'homophobie, de grossophobie, tous ces gens qui, au final, ne font que détruire la France. Voilà, j'ai mis un petit effet pour faire plus anxiogène. École Carole Rousseau, évidemment. Alors moi je vous le dis, Charline, ce phénomène, il m'inquiète, car la victimisation, c'est la première étape vers le communautarisme. Pour se sentir plus fort, qu'est-ce qu'on fait ? On reste entre femmes, entre noirs, et rester entre noirs, c'est pas forcément une formule gagnante, rappelez-vous les poétiques lovers. Conséquence, tout le monde se méfie de tout le monde. On vit dans une société où l'on ne peut plus rien dire, même quand on essaie d'être être sympa. Trop souvent, moi, on m'a qualifié de sexiste pour avoir dit à une femme qu'elle avait une jolie poitrine, ou de grossophobe pour avoir dit à un homme qu'il avait une jolie poitrine. Et dans ce nouveau monde égalitaro-victimaire, tout le monde est soit victime, soit coupable. Et puis là, la règle d'or, c'est qu'en termes de représentativité, on n'en fait jamais assez. Comme avec cette pétition pour que l'acteur noir Idriss Elba, que j'aime bien d'ailleurs au passage, devienne le prochain James Bond. Bah non, mais je suis désolé, mais James Bond, techniquement, c'est quoi? C'est un homme blanc, sexiste. Donc le seul successeur de Daniel Craig, c'est qui? C'est Pascal Praud, réfléchissez un peu. Et pardon, mais c'est pas parce qu'on est une minorité qu'on doit obligatoirement être représenté à la télévision. Moi, par exemple, je vous dis, j'ai pas envie qu'on place de manière artificielle dans je sais pas, Plus belle la vie, une Belge incapable de prononcer le mot 8, ou un trentenaire communiste aux cheveux gris avec le visage d'un chien de prairie. Oui, je parle de vous, Guillaume.
Trentenaire, c'est gentil.
Pourtant, ça pourrait bien arriver un jour, et même plutôt qu'on ne le pense, tant la pression sociale imposée par tous ces différents groupes de victimes est puissante. Par exemple, on ne peut plus toucher aux gros. Ah ben non, les gros, c'est fini. Maintenant, il faudrait qu'on les accepte tels qu'ils sont, alors que eux refusent de nous accepter tels qu'on n'a pas envie de les accepter. C'est de la grossophobie. Phobie. Donc, ah oui, ne vous réfléchissez pas aussi chez vous. Donc, excusez-moi, mais en matière de discrimination, j'ai autre chose de mieux à faire que de recevoir des leçons de personnes qui passent leur vie à discriminer la salade et la cuisson vapeur. Et encore, les gros sont des petits joueurs comparés aux reines de la victimisation. Je parle bien sûr des féminazis au service de la vagin stapo qui nous fliquent à longueur de temps. À cause d'elles, moi, je le dis, je n'ose même plus, je vous le disais, je n'ose même plus complimenter une femme de peur de passer pour un goujat. Donc, Charline, désolée, mais je ne vous dirai pas que je vous trouve particulièrement belle aujourd'hui, par exemple.
Oh si, Pablo, parce que je vais bien le prendre.
Désolée, Charline, je suis beaucoup de choses, mais certainement pas un menteur. Donc, non seulement toutes ces...
Salaud.
C'est cadeau pour la maison. Donc, non seulement toutes ces victimes transforment ce pays en chasse aux sorcières géantes, mais en plus, elles n'ont pas la dignité de garder leur malheur, leur souffrance pour elles. Parce que moi aussi, j'ai été une victime et je suis pas allé l'étaler pour autant. Oui, j'ai souffert de roussisme. On me disait que je n'avais pas d'âme ou que je sentais mauvais, alors que voilà, vous voyez, finalement. Bon, j'ai une âme, ça c'est sûr, c'est acté, c'est signé noir sur blanc. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait partie de la nature humaine de rejeter ce qui est à l'opposé de nos principes. Les véganes détesteront toujours les viandards, les féministes les machos et les gros les escaliers, voilà, c'est pas grave. Pour conclure, depuis cette libération de la parole des victimes, c'est de plus en plus difficile de vivre sa passion pour la discrimination. Beaucoup de gens comme moi vont donc devoir entamer une longue migration vers des territoires où la stigmatisation et les clichés sont encore les bienvenus. Une terre promise qui s'appelle C8. Allez, salut.
Eh bien, pas merci Pablo Mira, qu'on peut malheureusement réécouter en podcast.
Je vous comprends.
Et qu'on peut malheureusement revoir sur Facebook, enfin si j'ai décidé que oui, bien sûr. Ce titre, mon petit Pablo, mon petit ange, vous est entièrement dédié.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con.
Je vous passe devant, je te lave en vous. Ne m'aviez pas vu? Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con.
Exact.
Tout petit tellement je suis un grand, grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux.
Un grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux.
comme Grand Petit Conte d'Ange Trapu de Pablo Mira sur France Inter. C'est notre hasard, invité, voilà. C'est Boualem Sansal, qui est aussi l'invité d'honneur là du Festival du Premier Roman à Chambéry, qui démarre mercredi. Sachez qu'à partir de jeudi, vous pouvez rencontrer Boualem Sansal en dédicace à 17h30. Il y a des rencontres, des tables rondes, y compris samedi, dimanche. Par exemple, une table ronde au Livre Citoyen, au Château de Caramagne, par exemple. Et votre dernier livre, Le Train d'Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, paru chez Gallimard, Clara Dupont-Monod va s'en charger dans quelques minutes. Avant cela, Boualem Sansal, attention, accrochez-vous à votre string. Guillaume Meurice.
J'ai des infos.
Moi, je vais vous parler du bac aujourd'hui, puisque les révisions commencent. Je vais vous ramener dans les couloirs du lycée, ce que Jean-Luc Lahaye appelle son Tinder à lui. Parce que pour les lycéens, c'est dur en ce moment. Il y a Parcoursup qui a planté hier. On a fait croire aux candidats que leur choix d'école pour l'année prochaine avait été accepté, alors que non. Un bel ascenseur émotionnel qui n'est pas sans rappeler Benoît Hamon à 47% dans les sondages avant que son réveil ne sonne. Si on ajoute à ça les universités qui tombent en ruine, les classes surchargées, les chances de s'en sortir pour un jeune sont équivalentes à celles de Vincent Lambert, de courir à 400 mètres haies. C'est pas ouf, pas des glingos. Mais en attendant, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des solutions notamment pour réussir son bac. Il y a par exemple la start-up Onzik qui enregistre des cours en rap pour mieux apprendre les leçons. Alors ça paraît un petit peu abstrait comme ça, mais dans la réalité, ça donne ça.
45, Chine, reprise de la guerre civile. C'est les communistes contre les nationalistes. Victoire de Mao Zedong, victoire des communistes. 49, ils proclament la République populaire de Chine.
Voilà, alors vous avez compris, vous avez compris le principe. J'ai choisi volontairement un extrait sur la Chine communiste. Comme je sais qu'on est encore pas mal écouté par des profs syndiqués à la retraite avec des pulls jacquard qui boulochent, je me suis dit ça va faire le job. Alors, j'ai rencontré ce matin les deux créateurs, Abou et Dembo. Par quel cours ils ont commencé?
C'était la Première Guerre mondiale, enfin en histoire. Et du coup, on l'a juste posé sur un beat. On l'a mis sur YouTube, on a vu un peu les retours.
Vous avez posé la Première Guerre mondiale sur un beat.
C'est ça.
Alors, petite précaution, si les gens écoutent cette chronique avec Alain Finkielkraut, je vous conseillerais d'apprendre les gestes de premier secours quand même. C'est une appli qui met pas mal de gens en PLS. Pascal Pro, il a saigné du nez rien quand il a entendu le projet. N'empêche que c'est une réussite, c'est une appli efficace. Il y a plein d'élèves qui l'utilisent, qui en sont très contents. Donc, il va y avoir d'autres cours.
Là, on a enchaîné sur la géographie, on a de l'économie, on a des SVT, on a de la philosophie.
Est-ce qu'il y a des featuring qui sont prévus peut-être avec des stars du rap?
Nous, on aimerait bien. Enfin, pour le moment, ça s'est pas encore fait.
Est-ce qu'on pourrait imaginer PNL qui donne des cours de français?
Pourquoi pas.
Ah, alors attention quand même. Attention, je précise que les textes correspondent évidemment au programme. Tout ça est vérifié par des profs parce qu'il y a eu des tentatives par le passé. On a tous en tête les leçons sur la colonisation de Michel Sardou. Ah, voilà. Les cours de fiscalité de Florent Pagny. Bon, là, ça n'a rien à voir. Parce que non, faut faire gaffe. Parce que si Boualem Sansal, il rappe la guerre d'Algérie, ça ne va pas donner la même chose que si c'est Robert Ménard. Donc là, ça correspond au programme scolaire. Est-ce qu'il y aura d'autres styles de musique?
Absolument, absolument. C'est ce à quoi on est en train de penser. C'est ce qu'on pensait de toute façon depuis le début. On a pensé faire d'autres versions, peut-être un peu plus pop, un peu plus rock, etc.
Est-ce qu'on peut imaginer des cours de maths sur du Michel Thor, par exemple?
Des cours de maths sur du Michel Thor? C'est pas trop mon style de musique, mais pourquoi pas?
Ah, vous voyez, Alex, hein, pourquoi pas? Pour l'acte de 3, c'est peut-être pas. Ouais, pour dépanner la trigonométrie, peut-être sur du Michel Thor. Hein. Emmène-moi et calculer le carré de l'hypoténuse ce soir. Voilà, plein de choses à imaginer. On peut imaginez un combat de bécherelle entre Booba et Caris, par exemple. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des clashs de prévus dans l'appli Onzik?
Les seuls clashs qui peuvent être faits, ça va être entre les élèves eux-mêmes, hein, qui vont se clasher sur ce qu'ils ont retenu ou pas des cours.
Ils vont se clasher sur Charlemagne, sur Clovis.
Exactement.
Et au final, c'est ce qu'on fait, c'est on a inventé la couronne un peu du 21e siècle.
Eh ben, c'est Jean-Michel Blanquer qui va être content, le ministre de l'Éducation nationale. Tout le monde voit qui c'est, Jean-Michel Blanquer?
Non.
Vous voyez un Lexomil avec un visage? C'est Jean-Michel Blanquer. Ouais, c'est lui. C'est vrai que Jean-Michel, il a vu le film Les Choristes. Hop, il voulait mettre des chorales partout. Macron a vu le film Baise-moi. Bah, résultat un peu pas similaire. Non, la question qui se pose quand même avec Jean-Michel, c'est sur le flow de Jean-Michel Blanquer.
On l'a ou on l'a pas, je pense qu'il l'a.
Jean-Michel Blanquer, il a du flow?
Il a du flow.
Vous l'avez déjà entendu rapper?
On l'a déjà entendu rap. Enfin, oui, ça peut être assimilé à du rap.
C'est vrai. MC Blanquer, hein, on l'appelle. Moi, j'ai vu tous les concerts. Nathalie Loiseau en première partie avec son crew, La République en chemard. Et son fameux scud, Ballet in Vias. Ça, c'est du rap gouvernemental. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau le rap gouvernemental. Souvenez-vous, Christophe Barbier.
Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars. Mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image. Le jupe, le prez, le legoman. Yeah, I am the selfie made man.
Voilà. Ah, alors moi, je suis pas dans le jugement artistique, hein, puisque je fais moi-même du rock macrochiste. Donc je connais la discipline, donc je dis chapeau l'artiste. Bon succès à Abou et Dembo de Onzik. Bon courage à tous les élèves, évidemment, qui nous écoutent. Particulièrement à celles et ceux qui, comme le dit Ayam, n'ont pas le luxe de penser à demain. Parce que demain, c'est loin.
Merci Guillaume Meurice.
Mais c'est génial cette c'est idée de faire du rap avec les cours d'histoire. Non, Boulem Sansal, comment vous trouvez ça?
Pourquoi pas, il faut tout tester. Hein.
Ah, je trouve ça génial.
Ouais. Ouais, ça marche bien. Ça super.
Pourquoi pas,
ouais. Pour mieux retenir, si on a une mémoire auditive.
Oui, ça peut être, oui, un moyen mnémotechnique, c'est super. Ouais.
Goldman, il le sait, ça, il faut transmettre à Jean-Jacques Goldman.
Boualem Sansal est avec nous. On va parler de cet autre thème. Les deux géants de la distribution aux États-Unis, Walmart et Amazon, se livrent une concurrence féroce qui passe désormais par le délai de livraison le plus court. Piqué au vif par la rapidité d'Amazon, Walmart décide aussi de se lancer dans les livraisons en un jour pour ses clients premium. Première information, Walmart a du premium. Alors, que se passe-t-il quand un coursier de chez Amazon croise un coursier de chez Walmart? L'angoisse!
Elle en a passé un, elle en a passé deux, elle en a passé trois, elle en a passé quatre, elle en a passé cinq, elle vole là-bas! En l'espace de 150 mètres, elle a doublé tout le peloton. C'est époustouflant. En l'espace de 200 mètres, elle leur a pris 50 mètres. Roquépine entre en tête dans la ligne droite, poursuivie par Thierry Daudet. Roquépine, le driver, lève la cravache. C'est l'attaque de Thierry Daudet contre Roquépine. C'est l'attaque de Thierry Daudet qui va malheureusement. Thierry Daudet a battu Roquépine. Roquépine est pas éparsé, mise au grand galop. Elle est remise à peine. Oh là 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 là. Roquépine est battue.
Oh, les plus jeunes ne peuvent pas comprendre. C'est Léon Zitrone, bien sûr.
C'est l'humoriste préféré de Charline.
Non, mais ça, là, je peux l'écouter 50 000 fois. C'est... Vous l'aviez déjà entendu, Boualem Sansal? Bah, Léon Zitrone commentait comme ça.
Les... Si, je me souviens de. Oui, ah, oui. J'aimais bien.
Fabuleux. Hein. On se demande comment il n'a pas fait un arrêt cardiaque en pleine course. Quoi.
C'était chier à passer. Hein.
Voilà, bah, maintenant, c'est pareil avec les coursiers Deliveroo, Amazon ou Walmart aux États-Unis. Il y a un article, notamment dans Les Échos ce matin, parce que Amazon entre au capital de Deliveroo. Ah bah, vous comprenez la logique.
Ouais,
alors, Boualem Sansal, aujourd'hui aux États-Unis, aujourd'hui bientôt en France aussi, on peut recevoir ses commandes en un jour. C'est le nouveau défi, c'est la nouvelle manière de vendre plus. Qu'est-ce que vous déduisez, vous, de cette course à la vitesse de livraison? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses dont on a besoin dans la journée?
Mais c'est l'humanité entière qui est prise comme ça par le syndrome de la vitesse. Il n'y a pas que les livraisons, tout.
Et vous pensez que l'un induit l'autre? C'est parce qu'on est dans ce courant, ouais, comme de tout va plus vite que la livraison de...
Et on est entraîné. Voilà, on est pris. C'est que lire rapidement, consommer rapidement aussi. Hein,
oui.
Pour pouvoir commenter la suite. C'est un processus cumulatif qui va nous entraîner tous comme ça dans une sorte de...
Vous vous sentez entraîné ou dépassé par cette vitesse?
On est entraîné pour le moment.
Parce qu'on réagit quand même. Le temps du roman, Boualem Sansal.
Mais à un moment donné, ça va être dans l'ordre naturel des choses.
Oui, mais c'est un ordre qui est contre le temps de l'écrivain. Le temps du roman, c'est le temps long.
Justement, si vous êtes livré plus tôt, vous avez plus de temps pour lire.
En fait, ça dit tellement le rapport complètement détraqué d'une société par...
Il y a un siècle, un livre vivait, enfin la durée de vie d'un livre c'était une année. Aujourd'hui c'est 15 jours. Un livre sort le 1er septembre, 15 jours après c'est fini.
On n'en parle plus.
Il reste, il surnage 3-4 livres qui tiennent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis c'est fini.
Alors vous êtes
dans la prochaine rentrée.
Vous êtes bien mignon de parler de livres, parce que dans l'article des Échos, il parle de produits du quotidien, donc on se dit, ah bah il y a sans doute les livres, les disques, les DVD, il y a surtout les jouets et tout ce qui est électronique.
Ça.
Qui est livré vite, vite, vite. Où est-ce que vous achetez vos livres, vous, Boualem Sansal? Est-ce que vous avez des habitudes?
Moi, je n'achète pas de livres parce qu'en Algérie, voilà. Et pendant la période de dictature, les librairies ont disparu. Donc, voilà. On n'achète pas, on trafique, c'est des photocopies, on se les passe sous la table. Ouais. Voilà.
C'est comme ça que vous avez lu et relu les mêmes livres jusqu'à des centaines de fois.
Bon, et maintenant, j'achète toujours pas mes livres, je les reçois. Étant les éditeurs, m'envoient des bouquins, j'en reçois à peu près 50 par semaine.
Maison
est en train de s'écrouler sous le poids des livres.
Et donc, il y a dans ces envois-là, il y a ceux que vous souhaitiez lire?
Pas forcément.
Jamais vous faites un acte d'achat?
Jamais.
Par exemple, là, vous êtes à Paris, demain, vous êtes à Oslo, vous serez à Chambéry mercredi.
Voilà, je reçois des livres de partout.
Vous ne profitez pas pour acheter?
Mais, Si, quand même. Oui.
Si, il faut faire une librairie quand même.
Ouais, quand même.
Mais jamais sur Amazon, par exemple.
C'est pas forcément. J'achète pas forcément de la littérature, par exemple. Ah. Voilà. J'achète plus volontiers.
Mais sur Amazon, vous achetez un peu, ouais.
Ouais, ça m'arrive.
Oh,
j'achète des livres de maths, d'économie.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà, la littérature, voilà, je reçois.
Oui, voilà, je rappelle, il y a aussi des zones, des régions où on n'a pas le choix.
Je suis pas dans une maison d'édition.
Si on veut lire, il faut commander sur Amazon.
Mais de faire plaisir, Charline, c'est pas la peine d'insister.
Eh bien, continuons. Parlons dans le cœur de la littérature. Allons-y avec Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, parce que l'actualité, c'est donc le livre de notre invité, Boualem Sansal. Il est sorti à la rentrée littéraire dernière. Il s'appelle Le train d'Erlingen.
Et voyons, on en parle plusieurs mois après.
Oui.
Le temps de votre livre est plus long grâce à Clara Dupont-Monod.
Voilà, plus que 3 semaines que vous décriviez.
Le temps que Clara pige le livre aussi.
Exactement, exactement. Et j'y vais lentement. Alors, votre livre, Boualem Sansal, on pourrait le résumer en disant c'est l'histoire d'une dame très riche et très âgée qui résiste à l'oppression. Bon, ouais. On peut le résumer comme ça. On peut aussi le résumer en disant c'est l'histoire d'une jeune femme qui enterre sa mère, victime de l'oppression. Bon. Ouais. Mais on pourrait dire surtout, c'est l'histoire d'un train. Parce que pour moi, le train, c'est un de vos personnages principaux. Alors, en choisissant le train, ça va peut-être vous faire plaisir, mais vous vous faites plein de copains. Et par exemple, vous avez comme super grand copain un monsieur qui s'appelle Émile Zola, que vous connaissez évidemment, ouais. Puisque dans son roman La Bête humaine, Zola avait fait de l'express Le Havre-Paris, en fait un dangereux meurtrier, parce que ce train-là provoquait un épouvantable accident. Tandis que votre copine Agatha Christie, avec son crime de l'Orient Express, elle a fait du train un caveau, finalement, parce qu'on y meurt assassiné dans ce train. Alors vous, Boualem Sansal, vous lui donnez un autre rôle à ce train. Il se trouve que votre train, dans le livre, il est fiévreusement attendu par une population menacée. Nous sommes au XXe siècle, dans une petite ville qui s'appelle Erlingen, en Allemagne, et cette petite ville va être envahie. Par qui ? Aucune idée, on ne sait pas. Durant tout le livre, l'ennemi est invisible et la vieille dame qui raconte l'histoire s'affole du manque d'informations, de carburant, de nourriture, en fait de tout. Et globalement, la petite ville d'Erlingen appelle à l'aide et personne ne lui répond. « Erlingen me semble si seul au monde, dit la vieille dame, on ne sait rien sur ce qui se passe à 1 kilomètre de la ville. Le monde nous est devenu étranger. L'Europe existe-t-elle encore ?» C'est presque un programme politique, hein, la question de la vieille dame.
J'ai écrit ça.
Oui. C'est ce que vous avez écrit.
C'était en état second.
Alors,
votre auteur a écrit ça. Après.
Voilà, c'est l'explication.
La seule chose que la ville d'Erlingen a obtenue, c'est une promesse de la capitale, qui est située à 100 kilomètres de là, qui a dit « on va vous envoyer un train pour évacuer la ville d'urgence et mettre la population à l'abri ». Alors évidemment, soulagement, fièvre et soulagement. Donc chez vous, la souricière, c'est pas le train, comme chez Agatha Christie. Non, chez vous, la souricière, c'est la ville. Et le train, c'est la vie. C'est le sauvetage. Parce que chaque jour, les habitants d'Erlingen, et ça fait mal au cœur, se pressent, guettent le train, croient l'avoir vu. Ça devient en fait une espèce d'obsession, comme on peut être obsédé par sa propre survie. Donc résultat, ce train devient, un peu comme Charline et moi, un objet de fantasme, ultra désiré. D'ailleurs, si quand même, il faut le dire.
Non mais, c'est important de le rappeler.
Il faut savoir dire les choses à un moment. Mais d'ailleurs, non mais pensons au titre « Un tramway nommé Désir ». Ça m'est revenu en lisant votre livre, c'est exactement ça. Le train devient désir, et surtout, plus que le désir, c'est l'attente. En fait, avec ce livre, vous faites un grand roman sur l'attente. Vous montrez comment l'absence, en fait, peut devenir une présence écrasante. Le train prend des allures d'espoir fou, et en vous lisant, à ce stade, m'est revenue la dernière phrase, la toute dernière, d'un roman que j'aime tellement, et qui s'appelle « L'humeur vagabonde » d'Antoine Blondin. La dernière phrase, c'est « Un jour, nous prendrons des trains qui partent ». Et qu'est-ce que Blondin écrit juste avant cette dernière phrase ? Il dit « Un jour peut-être, nous abattrons les cloisons de notre prison, nous parlerons à des gens qui nous répondront ». Et vous voyez comment les livres se parlent entre eux, par-delà, c'est génial, par-delà les siècles, parce que finalement la phrase de Blondin, on peut la mettre dans la bouche d'un habitant de votre livre, un habitant d'Erlingen. Alors, on pourrait se dire, bon bah attendez, ils demandent de l'aide des habitants, mais ils vont en avoir, puisque la capitale essaie de leur envoyer un train. Bon, mais ça, ce serait supposé que Boualem Sansal croit une seconde en la capacité de nos dirigeants à se montrer humanistes. Eh bien non, parce que ce train, préviennent les autorités, a une capacité de remplissage de 5 000 personnes, et Erlingen compte 12 000 habitants. Donc il faudra, et oui, donc il faudra trier. Et voilà comment le train, qui était symbole de vie nouvelle, devient synonyme de mort prochaine, de déportation, parce que ça compense évidemment. Et voilà comment une promesse se transforme en sursis. Et on peut lire cette bascule du rôle du train dans votre livre comme un signe de votre sombre lucidité, Wallem Sansal, parce que finalement, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, attention, la civilisation n'est pas résistante, finalement il suffit d'un train pour que nos sociétés déraillent. Je vous redonne les références. Le train d'Erlingen de Wallem Sansal est paru chez Gallimard.
Merci Clara Dupont-Monod.
Il faudra me donner le texte, là, je vais m'en servir.
Vaut mieux vendre le livre.
Et vous pouvez le réécouter. Vous pouvez le réécouter en podcast, bien sûr. Merci beaucoup Clara pour cette lecture. Wallem Sansal, abordons ce dernier thème avec vous, l'odeur des livres. Elle est gravée dans la mémoire collective, c'est même scientifiquement prouvé, ce qui pousse la revue Heritage Science à réclamer son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. L'odeur des bibliothèques, des livres neufs ou anciens, l'odeur des livres illustrés de notre enfance. Alors fermez les yeux, imaginez la force du parfum qui se dégage du papier, quel que soit le papier.
Madame, santé, à quoi pensez-vous ?
Col chic dans les forêts,
très bien, merci.
Oui, chic
merci.
Dans les...
Et vous ?
Inoubliable fraîcheur du trèfle parfumé.
Vous écoutez la seule émission qui fait le lien entre le livre et le PQ. Voilà. Ça vous parle, cette notion d'odeur du livre ?
Oui, ça me parle, mais enfin, pas plus que ça. Je veux dire, on ne va pas faire mobiliser.
Donc, vous n'êtes pas engagé, vous achetez sur Amazon, vous n'en avez rien à péter de l'odeur des livres.
Il n'a même pas écrit son propre bouquin.
C'est pas quelque chose qui vous émeut.
Non, aussi, ça m'émeut, mais pas parce que. Non, attends, je sais pas ce que j'ai dit.
On repose cette question, parce que j'étais pas prêt, je pense.
Non, ça me dit.
Il aime pas les livres, puis
d'aller solliciter l'UNESCO pour en faire un truc.
Ah, oui, bien sûr, on comprend. Mais voilà, mais il faut rappeler que quand vous l'avez dit, en Algérie, c'est difficile de trouver des livres. Quand vous étiez.
Les trois quarts de l'humanité n'ont jamais vu un livre, n'ont jamais touché un livre, n'ont jamais senti un livre.
Exactement. Non, mais parce que justement, quand ça s'inscrit dans la mémoire collective, c'est parce que souvent, enfant, on a des bons souvenirs de la lecture. Vous, je le disais tout à l'heure...
La Madeleine de Proust, par exemple.
Vous avez dû relire et relire les mêmes livres parce que vous n'y aviez pas beaucoup. Oui. Et vous disiez, on les a photocopiés, donc vous, c'est l'odeur des photocopies. Un peu. Non, mais c'est vrai. Un point commun avec Jacques Attali.
Là, je suis d'accord. Oui. Pour moi, c'est plutôt la photocopie. Ouais. C'était les trucs à Saint-Style et machin, avec du formol, tout ça, des odeurs très caustiques.
Oui, bien sûr. Donc, on comprend que ça vous émeuve moins, parce que ça doit s'inscrire dans l'enfance pour que ça puisse se développer.
Ce serait quoi, du coup, l'odeur que vous auriez envie de garder ou de donner à l'UNESCO comme patrimoine ?
Ah, il y a une odeur comme que j'aime bien.
C'est celle de Pablo, là, c'est ce qu'on sent.
L'odeur des voitures neuves, là. Quand
des voitures neuves,
un bon cuir,
non ? Elles ont une odeur particulière.
Oui, mais même ils font exprès de les parfumer.
Oui, enfin, c'est
très artificiel, l'odeur des voitures neuves.
C'est très étudié, c'est une voiture remarquable.
On en mettra un petit peu en spray dans le prochain livre qu'on vous offrira. Odeur de voiture neuve pour votre livre, je pense que ça vous fera plaisir. Wallem Sansal, on a envie de jouer avec vous si vous êtes d'accord.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Je ne sais pas si vous avez suivi les législatives en Inde. Alors, je vous donne le pitch parce que le Premier ministre sortant, M. Modi, se représente, mais contre lui, il y a un sosie. Donc les deux...
Son propre sosie.
Oui, un sosie de lui, évidemment. Et ça doit poser des problèmes sur le marché, parce que comment, évidemment, faire campagne ? Vous êtes vendeur de légumes sur le marché à New Delhi, Charline est vendeuse de poissons, et Guillaume et moi sommes les deux candidats.
Ah là là, c'est quoi ça ?
Elle est fraîche, ma morue, elle est fraîche!
Ah, voilà ma.
Ça vous voilà. Qu'est-ce que vous faites là, Nadine Morano?
Ah bah, je fais mon métier, pourquoi cette question?
Nous sommes sur un marché en Inde.
J'ai une très bonne amie indienne. Moi,
c'est pas le sujet du sketch.
Non, vous êtes fait avoir, je suis Gandhirano.
Gandhirano.
Oui, le sosie indien.
C'est à s'y méprendre.
Le sosie indien de Nadine, mais avec moi, c'est un autre genre de non-violence.
Regardez, mes poireaux, ils sont beaux.
Bonjour les amis, comment allez-vous?
Je suis perdue là, on a sauté une ligne, non ?
Oui, vas-y.
Oui ? Il est frais, moi, oh, il est frais ! On a sauté une ligne.
Ah, ce que je vois, les affaires semblent fonctionner.
À vrai dire, pas très bien, monsieur Modi, à cause de votre politique d'ailleurs.
Ah, alors je suis pas monsieur Modi, je suis son opposant.
Ah, très bien, bon, ben, qu'allez-vous faire alors ?
Je vais complètement raser les marchés, terminer que les grandes surfaces. Si, je vais le faire.
Non, mais moi ça va le business, hein. Je suis très contente de la politique de Modi, moi.
Eh ben merci, c'est moi Modi.
Alors, oui, où suis-je? Là. Ouais, c'est alors, et mon pouvoir d'achat?
Votez pour moi et je vous promets 10% d'augmentation.
C'est la meilleure. Vous voulez me dire que vous allez mettre des supermarchés partout?
Ah bah non, ça m'étonnerait.
Ah ben revoilà déjà Monsieur Maudit.
Ah non, moi c'est pas Maudit. D'ailleurs, comment vont les affaires?
Vous nous faites une blague ou quoi?
Là, les affaires, ça va mieux depuis 5 minutes.
Non, mais je ne suis pas Maudit, je ne suis pas Tac.
Mais quelle différence avec Maudit?
En tout cas, pas la barbe.
Ni la tenue vestimentaire.
Ah, Monsieur Maudit.
Ah non, c'est vous, Maudit.
Ah, ça dépend des jours, vous êtes qui, vous?
Bah, aujourd'hui, je suis pas Tac, donc vous êtes Maudit.
Ah, bah, les jours où je suis Maudit, vous êtes pas Tac.
Oh, mais j'y comprends plus rien.
Et avec ça, les électeurs vont dire que les gouvernants sont tous les mêmes. Mais pas du tout.
Merci, Boualem Sansal. Merci
non,
d'être.
C'est trop marrant. Restez. Moi, je m'abonne à cette émission.
Ah, bah,
Abonnez-vous au podcast, Boualem Sansal. Comme ça, on vous accompagnera. Tiens, à Oslo, vous partez pour un festival du livre demain. Et puis, jeudi, vous serez présent comme invité d'honneur au festival du premier roman qui s'ouvre déjà mercredi à Chambéry, qui se tient jusqu'au 26 mai. On pourra vous rencontrer, faire des dédicaces avec vous, et notamment la dédicace de votre dernier livre, Le Train d'Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, paru chez Gallimard, que Clara Dupont-Monod nous a chroniqué. Merci les amis, merci aussi Pablo, Alex, Guillaume. On vous laisse le mot de la fin, Boualem Sansal.
J'ai l'intention de rester jeune jusqu'à la fin.